On va tourner ensemble dans le livre des Rois, deux Rois. Alors ce matin, on va faire quelques commentaires pour compléter notre survol de deux Rois, et puis on va passer à Esdras et Néhémie. Alors on va se courber ensemble pour un mot de prière, d'accord? Eh bien, Père éternel, nous voulons te remercier pour cette journée qui est devant nous, Seigneur. C'est toi qui l'as créée. C'est toi qui nous la donne, Seigneur, afin que nous puissions te glorifier, trouver notre plaisir, notre bonheur en toi et être nous-mêmes, Seigneur, une source de bénédiction pour les gens autour de nous. Je te prie, Père, de nous remplir de ton esprit, de venir faire une œuvre dans nos cœurs ce matin par ta parole. Seigneur, aide-nous à saisir ces moments dans l'histoire de ton peuple et l'histoire de ta révélation pour apprécier, admirer, Seigneur, davantage ta personne, ta bonté, ta grâce, ta fidélité, Seigneur. Ces livres que nous survolons me parlent 100 fois, 1000 fois, Seigneur, de ta grâce. Et j'ai besoin, Seigneur, que tu me rappelles constamment ces choses à mon propre cœur, pour ma propre vie. Je demande de nous bénir ensemble ce matin. C'est en Jésus que nous prions. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans le survol de la Bible, la section de l'Ancien Testament. Nous complétons le livre des Rois, deux Rois, et nous allons couvrir Esdras et Néhémie. La semaine dernière, si ma mémoire ne fait pas défaut, on était rendu à... En fait, on arrivait au royaume divisé. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que quelqu'un qui se rappelle, quelqu'un qui ne dormait pas la semaine dernière? Vous vous rappelez? Non? OK, vous dormiez tous. Voilà. Vous êtes découverts. Alors, c'est ça. On a parlé ensemble de la chute, la déchéance de Salomon. On a eu une longue discussion sur le salut de Salomon ensemble. Vous vous rappelez? Rafraîchissez votre mémoire. Et puis donc on a eu une longue discussion sur ça. Comment est-ce que Salomon terminait tout ça, lui qui est probablement l'auteur de l'Ecclésiaste. Bon, on a eu une longue discussion sur cette question-là. Et puis on arrivait au royaume divisé. Salomon décède, son fils Roboam va prendre le trône et il va manquer de sagesse d'une manière très 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 évidente. Disons que le don que son père avait eu, lui ne l'avait pas. Et il n'a pas écouté les conseillers et il a décidé de durcir encore plus tous les fardeaux qui étaient déposés sur le peuple. On va résumer ça comme ça, les travaux, les taxes, tout ça. Il a décidé d'augmenter même cette charge-là et son intention, c'était d'affirmer son autorité dès le début de son règne. Ça a été catastrophique pour lui, ça a causé immédiatement la division du royaume. Et Jéroboam, qui n'attendait que cela, bien, a pris cette opportunité-là pour pouvoir partir avec la quasi-totalité, dans le fond, d'Israël, c'est-à-dire qu'il va rester Judas et Benjamin qui vont rester fidèles à la ville de Jérusalem et au roi qui est à Jérusalem. Et donc, à partir de ce moment-là, on a la division du royaume d'Israël en deux royaumes, le royaume du nord, le royaume du sud. D'accord? Je vais vraiment survoler deux rois très rapidement ce matin. Mais on doit voir ça brièvement pour placer le récit parce que lorsqu'on arrive après ça dans Esdras et Néhémie, on revient de la déportation. Donc tout ça ne fera pas de sens si vous ne placez pas bien ce qui se passe dans la séquence, dans l'histoire du peuple d'Israël. Il y a donc cette division entre le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord va être caractérisé par des rois qui vont être infidèles à l'Éternel. Dans vos notes, on avait une expression qui le résumait bien. Par exemple, on lit dans 1 Roi 15, 11, « Alza fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme David son père. » Et 1 Roi 15, 26, un autre roi, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Alors, tout au long du livre des rois, Dieu, le narrateur, va poser un diagnostic moral ou spirituel sur chacun des rois et ça va entraîner le peuple à sa suite, à tout coup. Pour le royaume du Nord, les rois vont être infidèles. D'accord? Certains vont être vraiment abominables, comme le roi Achab, par exemple, et vont pousser l'immoralité, la cruauté à son maximum. Mais toujours, les rois vont être infidèles. Dans le cas du royaume du Sud, la majorité des rois vont être infidèles. quelques rois vont être fidèles à l'Éternel. Et on a les commentaires qui vont avec ça. On pense à Ozias, entre autres, d'accord, qui vont être fidèles à l'Éternel, qui eux autres vont conduire, vont ramener le peuple vers l'Éternel. Deux personnages importants, je vais simplement les mentionner, deux personnages importants dans le livre de Deux Rois, ce sont ces deux prophètes, Élie et Élisée, qui se démarquent par leur importance, par le rôle qu'ils vont jouer. Élie va être un prophète qui va avoir un impact majeur. Alors, pour ceux qui sont familiers avec l'histoire, c'est toute la rencontre avec Achab et tout le jugement qui va être là. En même temps, c'est un personnage important parce qu'on trouve un homme dans toute son humanité, dans toute sa fragilité. Alors, Élie a des moments glorieux, puis il y a des moments où on a l'impression de pouvoir s'identifier davantage avec lui lorsqu'il va fuir devant Jézabel, puis il a besoin que l'Éternel vienne le consoler. Et Dieu va le consoler à ce moment-là, mais il va le consoler aussi en lui donnant un aide qui va être Élisée. Et Élisée, lui, va demander, au départ d'Élie, il va demander une double portion de l'esprit d'Élie. Et la manière que Dieu va confirmer qu'il a donné cette double portion de l'esprit d'Élie, c'est qu'il va faire deux fois plus de miracles significatifs qu'Élie. Alors, il nous est relaté sept miracles importants pour Élie. Pour Élisée, on en a 14 qui nous sont rapportés. D'accord? Et donc, Dieu a exaucé même cette prière-là. Des prières qui ont de l'air comme farfelues. Mais Dieu a exaucé cette prière-là. Et donc, ces deux personnages-là vont être importants dans l'histoire. Le royaume du Nord, bien, Dieu avait annoncé que si Israël s'éloignait de lui, si Israël était infidèle, Dieu allait envoyer des ennemis, il allait être placé sous le joug des ennemis, et éventuellement, il allait être déporté. Dieu avait annoncé ces choses-là au moment où il a contracté l'alliance avec Israël, et Dieu a honoré son alliance. D'accord? J'insiste sur ça dans le cours. Dieu a été fidèle, Dieu a honoré son alliance. Et en le faisant, il a été gracieux envers Israël avec la déportation. Parce que les châtiments de l'Éternel sont une bénédiction pour ses enfants. D'accord? C'est par cela qu'on revient souvent à la maison. Et donc, Dieu honore son alliance. Le royaume du Nord va être déporté. Et Dieu va honorer aussi ses promesses envers la maison de David, en ce que le royaume du Sud va subir aussi une déportation, c'est vrai, mais beaucoup plus tard et simplement pour une période de 70 ans. Je vais juste essayer de voir dans mes notes où est-ce que j'avais souligné les dates, là. Pour se donner une perspective. Bon. Vous avez la chute de Samarie en 722. Et puis, vous avez la déportation. Alors, ça c'est la déportation du royaume du Nord. Puis, vous avez la déportation du royaume du Sud en 586. D'accord? Alors, il y a 100 quelques années de différence où Juda va rester une toute petite nation qui n'est pas glorieuse, mais qui est là, qui est préservée autour de la ville de Jérusalem. Et puis, éventuellement, eux aussi vont subir la déportation. Est-ce qu'il y avait des questions juste sur ce survol-là, très, très bref, là, parce que je vais aller vers Esdras et Néhémie? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui. C'était dans quel but? Bonne question. Je vais répéter la question. Pourquoi est-ce que Élisée a demandé une double portion de l'esprit d'Élie? Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus? Il faut se rappeler le récit, là. Évidemment, si votre réponse, c'est de la spéculation. Mais allez-y avec le récit. Il y a quand même peut-être quelques indices dans le récit. Je pense pas qu'on a une réponse définitive. Quelqu'un veut s'essayer? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait qu'Élisée voulait absolument pas qu'Élie s'en aille. Et donc, il voyait en lui un père spirituel qui veillait sur lui. Fait que, il y a comme un Dieu, si tu m'enlèves Élie, il va falloir que tu sois avec moi sérieusement. Et on voit la même chose qui s'était produit, par exemple, avec Moïse et Josué. D'accord? On va retrouver dans le Nouveau Testament, on va retrouver des pères comme ça aussi avec Paul et Timothée. D'accord? Paul et Tite. On va retrouver ça aussi. Mais ça serait, je pense, la meilleure réponse que je pourrais donner. Et tout simplement, il a dit, ben, je veux absolument que tu sois avec moi, Éternel. En gros, c'est ça. Si je dois prendre cette charge-là, il faut comprendre que la charge d'un prophète, c'était complètement, c'est l'isolation totale. Vous comprenez, nous on se bat pour se tenir debout pour notre foi à 300 ensemble. Là, c'est le prophète par moment, c'est un devant tous les prophètes de Baal, d'accord? Donc, c'était vraiment une charge incroyable et dans bien des cas, tu savais que probablement que ta fin, ce serait la mort, là. Parce que tu t'en allais voir le roi pour lui dire « Dieu est contre toi ». Mais peut-être qu'il ne veut pas que tu te promènes dans le pays en disant ça. Tu sais? Fait que, voilà. Donc, un et deux rois. Alors, ces livres-là se terminent sur cette histoire triste, la déchéance d'Israël. Si on replace les livres de 1 et 2 rois dans l'ensemble des Écritures, on veut toujours se rappeler ce que c'est en train de nous donner par rapport à la révélation, à l'histoire de la rédemption. La Bible est une révélation progressive partant de la Genèse à l'Apocalypse qui contient une histoire essentielle, c'est l'histoire du salut, l'histoire de la rédemption. Et donc, si je viens replacer ça dans le contexte, rappelez-vous la promesse qui avait été donnée à David. Il avait été promis à David que son trône serait éternel. Et donc, ce que ces livres-là viennent ajouter comme briques dans cette histoire progressive-là, deux éléments importants à retenir. Israël voulait un roi. Il n'y a pas de roi sur terre qui peut prendre la place de l'Éternel à la tête du peuple d'Israël. Israël avait déjà un roi. Ce roi-là était au ciel. C'était l'Éternel. Il était au milieu d'eux dans le temple. Israël voulait avoir un roi qu'ils allaient voir, qu'ils allaient pouvoir toucher, qui allait être un homme devant eux. Dieu leur a donné un roi. Il n'y a pas de roi qui peut remplacer l'Éternel, sinon l'Éternel au milieu de nous, Emmanuel. D'accord? Et donc, si je veux replacer juste ces deux livres-là dans l'histoire de la rédemption, les briques qu'ils viennent ajouter à cette construction-là, où on est en train progressivement de découvrir l'histoire du salut dans la Bible, je dirais que ces deux éléments-là sont importants. Oui, vous allez avoir un roi. Comprenez qu'il n'y a aucun homme qui pourra être votre roi. C'est vraiment l'Éternel qui doit être le roi sur votre cœur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça va venir un jour parce que l'Éternel va s'incarner au milieu de vous. Et donc, Jésus-Christ va être ce roi-là, qui va être, oui, un homme, comme vous le désiriez, mais en même temps, qui va être Dieu fait homme. D'accord? Ça, c'est juste pour le replacer dans l'histoire de la rédemption. Et donc, lorsqu'on arrive à la fin du livre, on est à la fin d'une histoire triste. Si je reste là, si je m'arrête à la fin de deux rois, je suis à la fin d'une histoire extrêmement triste. Mais si je place ces deux livres-là dans l'histoire de la Genèse à l'Apocalypse, l'histoire de la rédemption, oups, là, on s'en va ailleurs, là. On est dans l'attente, dans le fond. Ces livres-là sont en train de confirmer cette attente d'un Messie qui va venir et qui, lui, est le seul roi qui peut vraiment régner. Qui ne va pas nous tromper, qui ne va pas s'éloigner de l'Éternel, qui va être fidèle en toutes choses, qui va avoir un cœur selon Dieu, puisque c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. D'accord? Donc, c'est un livre triste, mais c'est un livre qui nous parle d'attente. On attend ce roi-là qui va venir. Ça va? Est-ce que tout le monde est familier avec cette idée-là? Quand j'utilise cette expression-là, l'histoire de la rédemption, tout le monde arrive à suivre un peu où je m'en vais avec ça? Si vous avez des questions, ce serait le moment, parce que je vais développer ça un peu au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous résumer dans vos mots? C'est quoi l'histoire de la rédemption? Dans vos mots à vous. Pas trop technique, s'il vous plaît. C'est clair pour tout le monde? Oh, pardon. OK. L'évolution du plan que Dieu établit du commencement à la fin. C'est bon. Et ce plan-là, cette histoire-là, est centrée sur une histoire de salut. D'accord? On commence la Genèse avec super belle création, gâchis total. Quelques instants après, l'humanité, je vais le dire en québécois, scrap tout ça. D'accord? Et on est en préparation pour rétablir tout ça de manière encore plus glorieuse. Toutes les Écritures sont en préparation pour ça. Nous sommes en train de célébrer l'avènement de ça, et ce qu'on attend, c'est la consommation de toutes choses. D'accord? Lorsque Christ va revenir. Donc, on est encore dans une attente, mais en même temps, on est déjà dans le royaume. Ça va? On se tourne maintenant vers les livres d'Esdras et Néhémie. Comme je l'avais mentionné, volontairement, on ne couvrira pas 1 et 2 chroniques. il y a beaucoup, beaucoup de recoupements avec un et deux rois et je dois faire certains choix difficiles pour arriver à couvrir toutes les Écritures dans une année. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on pense à Esdras et Néhémie? Quelques personnes, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on pense à ces deux livres-là? Oui. Alors, c'est le retour. Le retour de l'exil. D'autres choses, ça peut être plus personnel. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à Esdras et Néhémie? La reconstruction du temple. OK. OK, excellent. Alors, on voit deux personnes à qui on peut s'identifier. Merci. C'est très édifiant. Donc, deux personnes auprès de qui on peut s'identifier. Je pense qu'on me prendra un micro des fois pour les réponses. C'est. Je ne suis pas sûr que tout le monde a bien entendu. Hein? Est-ce que vous en... Non. Alors, on voit deux personnes à qui on peut s'identifier dans les Écritures comme des modèles. Mais ce que je trouvais intéressant que Florence soulignait, c'était l'idée justement que dans leur expérience quotidienne de la foi, ça se rapproche de nous. Parce qu'ils travaillent avec les Écritures, lisent les Écritures, vont dans la prière. C'est une des choses qui est frappante avec Esdras et Néhémie, c'est qu'on n'est pas dans une époque où Dieu fait des interventions miraculeuses à travers la bouche nécessairement. Il y a des prophètes, mais un prophète qui vient, puis bam, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, le feu descend du ciel. Ça se rapproche plus de notre expérience plus quotidienne. C'est-à-dire qu'on est devant des obstacles, on comprend quelle est la volonté de Dieu à partir de sa parole, on puise dans la parole de Dieu pour comprendre sa direction, puis on va dans la prière pour demander à Dieu d'intervenir et on voit la souveraineté de Dieu se manifester. Donc, pour toutes ces raisons-là, on peut s'identifier justement avec Esdras et Néhémie. C'est excellent. Une dernière personne, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en pensant à Esdras et Néhémie? Oui, oui. Alors, il y a la repentance. Je pense qu'une des choses, lorsqu'on pense à la repentance, moi je vous encourage toujours à chercher les deux volets. Ce qui se passe sur le plan humain, ce qui se passe sur le plan divin. Alors, sur un plan humain, on voit une certaine repentance. Certaine repentance, d'accord? Ça prend encore des leaders qui sont là puis qui veillent sur le peuple. Ce peuple-là a besoin d'un cœur nouveau. Ça, c'est clair. Mais le peuple doit constamment veiller. Mais il y a une certaine repentance qui est là. Et évidemment, s'il y a une repentance puis il y a une reconstruction, ça nous parle de la grâce. D'accord? C'est pour ça que tous ces livres-là nous parlent constamment de Dieu. Ça nous parle encore une fois de la fidélité de Dieu à son alliance. C'est ce Dieu-là qui est votre Dieu, qui a contracté une alliance avec vous, qui a été scellé par le sang de Christ. C'est ce Dieu-là, exactement ce Dieu-là. Et donc, ces livres-là, on est dans l'Ancien Testament, là, on est sous la loi. Là. Et pourtant, ces livres-là nous parlent constamment de la grâce. On voit la grâce de Dieu. À travers la repentance du peuple, on voit la grâce de Dieu. Si vous allez avec moi dans le document pour la leçon de cette semaine, leçon 10, et on a résumé avec en terminant deux rois, ce qui se passe un petit peu au niveau des déportations, tout ça. Et comme je l'ai mentionné, Dieu est fidèle à son alliance et Dieu est fidèle à chacune de ses promesses, que ce soit de préserver Juda pour un temps, que plus tard, on va voir qu'il va être fidèle même sur le trône qui va être éternel. Dieu est fidèle en amenant la calamité sur Israël. Dieu est fidèle aussi en faisant cela. Et puis, éventuellement, on arrive avec les deux déportations, 722 puis 586, où les deux royaumes maintenant ont été déportés. Jérémie, alors là, peut-être juste une information pour ceux qui ne sont pas familiers avec la structure de l'Ancien Testament ou comment les livres sont placés. On arrive vers la fin des livres historiques et donc les livres prophétiques. On va arriver dans les livres de la sagesse. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésias, on va arriver dans les livres de sagesse. Ensuite de ça, on va aller dans les livres prophétiques. Les livres prophétiques viennent s'intercaler ici. D'accord? Alors plus tard, lorsqu'on va aller voir les prophètes, on va revenir dans l'histoire. Mais je ne fais pas un survol chronologique de la Bible. On se promènerait constamment entre les livres. On fait un survol de la Bible livre par livre. Mais lorsqu'on va arriver dans les livres prophétiques, par exemple dans Jérémie, on va revenir dans le temps. Alors Jérémie avait prophétisé que cette captivité-là durerait 70 ans et Dieu est fidèle à sa promesse. Ces deux livres-là sont là pour nous parler encore une fois de la fidélité de Dieu à ses promesses. La fidélité de Dieu à son alliance avec Israël. D'accord? Et lorsque Dieu fait des prophéties, Dieu va accomplir ses paroles. Et donc, 70 ans plus tard, après ce temps, le Seigneur ramènerait son peuple dans le pays qu'il lui avait donné à la sortie d'Égypte. La crise mondiale de 539 avant Jésus-Christ, où l'Empire perse prend le pouvoir sur les Babyloniens, voit la parole de l'Éternel s'accomplir. Une des choses qui est frappante lorsqu'on lit l'ensemble des Écritures, par exemple, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, quand on sera rendu là, je prendrai le temps de le souligner, mais Dieu est véritablement souverain sur tout ce qui se passe sur le plan de la géopolitique mondiale. D'accord? Et donc, comme croyant, comme chrétien, on regarde l'histoire de l'humanité, puis on fait toujours deux lectures. On fait une lecture de l'histoire à partir des yeux de quelqu'un qui ne croit pas, puis on est juste en train d'accumuler des informations, puis voir si ces informations-là sont vraies. Mais nous faisons aussi une lecture avec les yeux de celui qui croit, de celui qui croit qu'il y a un Dieu souverain qui mystérieusement intervient dans l'histoire des hommes pour accomplir son histoire à lui. Et c'est celle-là qui nous importe. Maintenant, lorsqu'on arrive à cette époque-là avec Esdras et Néhémie, c'est important de voir justement ces deux histoires-là qui se superposent parce qu'on arrive à une époque où l'Empire des Mèdes et des Perses, par ses politiques internationales, va favoriser ce retour-là. D'accord? L'Empire babylonien avait fait comme les Assyriens, c'était des peuples qui, lorsqu'ils arrivaient à faire, ils faisaient la conquête d'un territoire, d'un pays, ils prenaient toutes les meilleures ressources du pays et ils les déportaient. Des fois, ils les déportaient auprès d'eux, d'autres fois, ils allaient les placer dans un autre pays, tout simplement. Et ils déstabilisaient afin d'être sûr de pouvoir régner, que les peuples n'arrivent pas à s'organiser avec des leaders, tout ça. D'accord? Et donc ça, c'était les pratiques de l'Empire assyrien, de l'Empire babylonien. On arrive à une place, on prend les meilleures ressources. Si on peut prendre les plus jeunes puis pouvoir les endoctriner, les former pour qu'ils viennent servir dans notre palais, qu'ils deviennent des ressources, on va en les déportant, on va les déstabiliser, on va pouvoir les endoctriner, ils vont pouvoir rentrer dans nos armées, tout ça. Si, ça, c'est avec les plus jeunes. Alors, ils arrivent en Israël, puis ils disent, on pensait à Daniel, par exemple. Regarde quelles sont les jeunes ressources qui n'ont pas déjà toute une pensée formée, tout un attachement qui pourrait décider d'essayer de fomenter quelque chose pour retourner dans leur pays. Non, ce sont des jeunes, puis on va pouvoir les endoctriner. Et en même temps, ce sont des gens brillants. Ces ressources-là sont des gens déjà qui ont un certain raffinement de par leur famille, tout ça. Et donc, il y a tous des jeux là-dedans où on va honorer un peu les rois en prenant des jeunes comme ça, une élite, puis on va les prendre auprès de nous. Ça, c'est pour une partie. Pour une autre partie, ils vont pouvoir même les déporter dans d'autres pays. Ils vont prendre partie de la population. C'est comme si nous, on était envahis, puis on était déportés, je sais pas, à quelque part dans un pays d'Afrique. D'accord? Mais l'envahisseur, ce serait notre voisin, admettons. D'accord? Et donc, on est déporté dans un pays d'Afrique. L'idée, c'est simplement c'est qu'on n'ait pas de relation, qu'on n'ait pas d'autorité, qu'on soit tout simplement des sujets et qu'on n'a pas le choix de faire ça. Évidemment, ils ne peuvent pas tous les amener auprès d'eux parce qu'ils envahissent, d'accord? Et eux-mêmes vont envoyer une partie de leurs ressources pour pouvoir... Donc, ils vont déplacer d'autres peuples qui vont amener là en Israël. C'est ce qui va se passer avec les peuples qui vont se mélanger. Puis, ils vont envoyer des gens de chez eux pour diriger tout ça. Lorsqu'on arrive avec les Mèdes et les Perses, leur politique était beaucoup plus clémente. Et donc, ils s'assuraient de pouvoir laisser d'excellentes ressources dans le pays. Et comme eux arrivent après, bien, la politique qu'ils ont adoptée pour pouvoir... Et pour eux, c'était bénéfique, là. Nous, lorsqu'on lit l'histoire, on dit, c'est clair, c'est Dieu qui était derrière ça, puis Dieu est en train de bénir Israël. C'est vrai. C'est absolument vrai. Je suis pas en train de remettre ça en question. Mais ce qui s'est passé là, ça s'est passé avec d'autres royaumes autour aussi. Et donc, les Mèdes et les Perses, systématiquement dans leur politique, ont commencé à renvoyer des gens dans leur pays, dans leur territoire. Et pour eux, ils conservaient l'assujettissement du peuple, d'accord? C'était des ententes qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train d'honorer. Alors, on va vous garder dans notre royaume en vous honorant d'une certaine manière, en vous renvoyant dans votre pays. C'est ce qui se passe sur le plan de la géopolitique de toute la région. Et donc, Dieu est souverain sur ces choses-là. D'accord? On le fait constamment, on fait cette lecture-là constamment dans notre quotidien. Il arrive des cercles, je suis en train de prier pour quelque chose, je suis en train de prier pour un emploi, pour une maison, je suis en train de prier pour quelqu'un, pour la santé de quelqu'un. Lorsqu'une personne va aller se faire opérer, on demande, Seigneur, mets ta main sur les chirurgiens pour qu'ils interviennent comme il faut et que ça se passe bien. Et comme croyant, lorsque Dieu répond à notre prière, ben, on peut lui serrer la main du chirurgien et dire merci. Puis dans notre cœur, on dit merci à Dieu. D'accord? Parce qu'on est convaincu que Dieu est souverain sur ces choses-là aussi. Ça va? Et c'est intéressant de le voir lorsqu'on survole les Écritures parce que ça nous parle de la grandeur de notre Dieu. On va revenir sur ça aussi lorsqu'on va arriver dans le Nouveau Testament. Le moment que Dieu a décidé pour que Christ vienne, il y a une sagesse infinie dans ça. Il y avait un moment vraiment particulier où il y avait plein d'éléments, il y avait des conjectures qui allaient dans la bonne direction pour pouvoir permettre à ce que l'Évangile se répande rapidement. Ça va? Donc, l'Empire des Mèdes et des Perses avait cette politique-là qui était de renvoyer des gens dans leur pays afin de les réinstaurer leur pays et honorer même leur divinité qui était là. Et Dieu va se servir de ça pour pouvoir accomplir sa prophétie, où le peuple d'Israël va être en captivité, le peuple de Juda, le royaume du Sud va être en captivité seulement 70 ans et ils vont retourner. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ça va? Babylone n'est plus là à ce moment-là. Ils ont vaincu. D'accord? C'est clair que c'est dans leur intérêt. Je ne me souviens plus des détails. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. Je ne me souviens plus des détails. C'est clair qu'ils le faisaient dans leur intérêt. Alors, lorsque nous, on lit Esdras et Néhémie, on voit la grâce de Dieu. Et là, si vous aviez pris un café à cette époque-là avec l'empereur perse, ben lui vous aurait dit, « Oui, c'est sûrement une grâce de ton Dieu, mais c'est moi qui te l'accorde. Puis c'est dans mon intérêt. » D'accord? Et c'est important d'en avoir conscience parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu travaille à travers l'histoire des hommes. Fait que vous allez aller voir quelqu'un, puis vous allez dire, j'ai prié pour ça, puis si tu me donnes l'emploi, c'est pas juste toi qui me le donne, c'est Dieu qui me le donne cet emploi-là. Mais à ses yeux, à lui, il peut te regarder avec un gros sourire. C'est cute, là, ton affaire, là, mais c'est moi qui te l'ai donné à la job. Ouais, mais si je te racontais l'histoire, peut-être que tu commencerais à voir qu'il y a pas mal de coïncidences particulières, tu sais. Puis si ton cœur s'ouvrait, là, tu verrais que finalement, il y en a beaucoup de ces coïncidences-là. Ici, c'est comme une coïncidence majeure, parce que c'est vraiment dans la géopolitique internationale que Dieu est en train de jouer. D'accord? Le livre d'Esther, on va le couvrir la semaine prochaine, mais je le mentionne tout de suite quand même. Ce livre-là vient vraiment à quelque part dans cette période-là d'Esdras et Néhémie, parce que ça se passe probablement entre la première et la deuxième retour d'exil. Le premier et deuxième retour d'exil, le livre d'Esther vient s'immiscer entre les deux, d'accord? Mais on va le couvrir la semaine prochaine avec Job. Alors, le thème du livre d'Esdras et Néhémie, je vais parler d'un seul livre, parce que dans la Bible hébraïque, c'était un seul livre, d'accord? Et probablement qu'on parle d'Esdras comme auteur des deux livres, d'accord? Donc, on parle d'un livre qui aurait été écrit par un homme qui s'appelle Esdras. Et c'est clair, là, quand tu peux pas bien interpréter Néhémie si tu n'as pas lu Esdras. Tu peux pas. C'est vraiment une histoire qui se tient d'un bout à l'autre. Alors, le thème du livre d'Esdras et Néhémie, Dieu rétablit l'alliance avec son peuple sur les fondements du passé en restaurant le temple, l'adoration et la ville de Jérusalem. Comme l'Éternel protège le reste de son peuple des peuples ennemis et les délivre aussi de la corruption occasionnée par des méchants ou par des ennemis du peuple au milieu du peuple même. Date de rédaction? Bien, on pense probablement que c'est Esdras. Il y a certains indices dans le texte qui nous amènent à croire que c'est probablement Esdras qui a écrit le livre. Et donc, la période de rédaction, ce serait 440-400 environ. Et c'est donc lui qui aurait ajouté à la fin de son livre l'histoire de Néhémie. Pour ce qui est de la structure, bien comme je vous dis, je les traite comme un seul livre. Alors, si vous regardez la structure au point 4, premier retour de l'exil, c'est pas Esdras qui est présent à ce moment-là. Esdras va venir beaucoup plus tard, mais probablement que c'est lui qui nous raconte toute cette histoire-là. Alors, premier retour d'exil sous l'édit de Cyrus. Alors, la préparation, la liste des immigrants qui vont revenir, c'est vraiment un tout petit noyau qui va revenir hein, par rapport à ce qui a été déporté. Ils sont très peu nombreux en réalité. Plusieurs milliers. Mais c'est pas la gloire d'Israël passée, là. D'accord? Alors, premier retour d'exil. Deuxième, la restauration et l'adoration. Alors, le temple est rétabli, la reconstruction du temple, le nouveau temple. Second retour d'exil, là, c'est Esdras qui va revenir avec un autre groupe de personnes. Et là, Esdras va exercer des réformes lui-même à ce moment-là, des réformes morales. Lorsqu'on arrive à cette époque-là, il y a 1000 ans qui se sont écoulés depuis que la loi a été donnée. D'accord? La loi a été donnée à Israël 1000 ans plus tôt. Et donc, si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, vous vous rappellerez lorsqu'on on entre dans la terre promise, à la nouvelle génération, la loi est rappelée, l'alliance est rappelée. C'est à ça qu'on va assister ici aussi. C'est un retour d'exil, de l'exil, mais c'est un retour vers l'Éternel aussi. D'accord? Alors, Esdras va venir et il va apporter une première réforme morale. Pardon. Restauration des murs sous Néhémie. Alors, il va y avoir un deuxième retour, c'est-à-dire pour Néhémie lui-même. Néhémie va venir avec la permission du roi Artaxerxès. On a vu ça plus longuement dans la série cette année. Mais donc, là, c'est la reconstruction des murs, la protection de Jérusalem qui va être fait là. Et il va y avoir une deuxième réforme sous Esdras et Néhémie sur le plan moral où on va aller dans les Écritures, on va lire les Écritures au peuple. C'est vraiment un moment qui est vraiment beau, qui est glorieux. Édit de Cyrus. Alors, on commence avec le début d'Esdras, Esdras 1, 1 à 4. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Juda. Vous voyez juste par cet édit-là, sa lecture à lui de cette histoire-là, d'accord? Tous les royaumes de la terre lui appartiennent. Il est en train d'organiser ses provinces, d'accord? On va le dire comme ça, il est en train d'organiser ses provinces. Ça, c'est sa perspective à lui. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, parce qu'il y a des dieux qui sont ailleurs. Vous voyez, ça, c'est sa lecture toujours. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Et donc, cette pratique-là de cet empire-là est documentée historiquement. D'accord? Oui. S'il avait fait ça seulement avec le royaume d'Israël, je l'interpréterais autrement. Tu comprends? Votre Dieu m'a dit de vous renvoyer. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est une pratique qu'il faisait. Il est en train de... Et donc, pourquoi est-ce qu'il... Oui, ben oui, absolument, c'est à son avantage. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il parle de l'Éternel comme le Dieu des cieux? C'est parce que l'Éternel est le Dieu des cieux. C'est comme ça qu'Israël le présente. C'est le Dieu, leur Dieu, c'est le Dieu des monothéistes. D'accord? Écoute, je me suis pas assis avec lui pour prendre un café. Mais historiquement, j'y crois pas trop, là. Mais je crois que Dieu est souverain. Tu comprends? Maintenant, je veux dire, il dit une vérité. Dieu a donné tous les royaumes de la terre. C'est vrai. C'est vrai. Dieu a donné Israël à Babylone. C'est vrai. Vous comprenez? Dieu est souverain. Fait que c'est vrai. Je veux dire, quand Dieu va décider que c'est fini avec ce roi-là, il va mourir, puis le prochain va arriver, puis ça va finir là. Donc, c'est pas tout faux ce qu'il dit. D'accord? Mais il faut pas voir dans ça une profonde révérence envers l'Éternel. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. C'est là dans son langage. Vous le voyez, c'est là, là. C'est le Dieu qui est à Jérusalem qui est en train d'honorer. Il va honorer le Dieu qui est ailleurs aussi. Puis il va honorer ses dieux à lui. C'est pas une conversion à l'Éternel à laquelle on est en train d'assister ici. C'est le narrateur qui nous dit ça. Et donc le narrateur dit, dans le fond, ce que le narrateur est en train de nous dire, c'est moi j'ai vécu à cette époque-là, puis à un moment donné, on a vu un édit apparaître. C'est Dieu qui était derrière ça. C'est clair que c'était Dieu qui était derrière ça. Et oui, je viens à vous. Écoutez, dans l'histoire du Québec, j'espère que je ne troublerai pas trop de gens au niveau de votre foi, d'accord? C'est pas mon objectif du tout. Moi, je suis bien à l'aise avec ça, puis ma foi n'est pas affectée par ça. Mais est-ce que le réveil qu'on a vécu dans les années 70-80 est dû au fait qu'il y a eu un changement géopolitique avec la Révolution tranquille? Qui disposait les gens à sortir de l'Église catholique pour pouvoir chercher quelque chose d'autre? Ou est-ce que c'est Dieu qui l'a fait? Bon, je sais que c'est pas tout le monde qui peut suivre. Là. Ceux qui ne connaissaient pas assez l'histoire du Québec, il faut que vous lisiez ça. Si vous êtes peut-être des nouveaux arrivants, vous avez besoin de connaître ça. C'est une belle histoire, c'est extraordinaire. Mais on a vécu un réveil spirituel extraordinaire dans les années 70-80. Et tu peux analyser tout ça sur un plan historique, sociologique, puis dire mais c'est des conjonctures humaines. Mais c'est souvent le cas avec les histoires de réveil. Tu peux le faire. Quand tu vas dans la vie des individus, tu dis non, Dieu était derrière ça, parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est pas juste un phénomène psychologique, je peux te le dire. La preuve, c'est que je marche aujourd'hui pour Jésus au lieu de faire comme toutes les autres, d'accord? Et donc, c'est la main souveraine de Dieu qui est en train de travailler à travers l'histoire de l'humanité. Est-ce que ça clarifie quelque chose? Ben là, je ferais une nuance parce qu'il a vécu quelque chose à ce moment-là. D'accord? Fait que, qu'est-ce que lui a pu vivre? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans son esprit. Ce que je peux te dire, c'est qu'il va le répéter à d'autres peuples. Ça, c'est la réalité. Oui, Julie. Excuse-moi, il y avait un monsieur avant. Oui. Et la question d'Annie plus particulière, c'était, OK, mais lorsque Cyrus est en train d'articuler cela, est-ce que Cyrus est vraiment en train d'adorer ou est-ce qu'il est en train de manipuler? Et je ne peux pas me prononcer sur ça. Là, on parle d'un édit. Si ça avait été une parole spontanée, par exemple, rappelez-vous le centurion qui est au pied de la croix lorsque Christ meurt, puis qui s'exclame. À la limite, c'est une parole d'adoration, cette affaire-là. Là. Puis par un non-chrétien, là. C'est, à moins qu'il se soit converti là, mais je veux dire, vous comprenez, il y a une exclamation. On en a dans l'Écriture des moments où des gens qui ne sont pas vraiment à Dieu, c'est tellement gros qu'ils vont s'exclamer. Si ça avait été juste comme une parole mentionnée comme ça, je serais peut-être plus porté à voir là-dedans un acte spontané d'adoration qui est suscité par Dieu, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de prendre un âne pour le faire parler. Il peut prendre un non-croyant, pas de problème. C'est pas un problème. Là, c'est dans un édit. Alors, il y a une formule, il y a tout ça. J'ai plus de difficulté à voir là-dedans une adoration sincère. Julie, puis David, puis après ça, on avance un petit peu. OK, David. Oui, c'est ça qui n'est pas clair. C'est lorsqu'il s'adresse à l'Éternel en parlant de lui comme le roi des cieux, est-ce qu'il est en train de reconnaître que l'Éternel est le roi des cieux ou est-ce qu'il est en train de respecter la théologie des Juifs sur leur Dieu? D'accord? Les Juifs étaient monothéistes. C'était déjà un phénomène extraordinaire pour l'époque. Et donc, c'est unique. Et donc, est-ce qu'il est en train d'honorer simplement la conception que les Juifs ont de leur Dieu, qui est le Dieu des cieux? C'était pas le Dieu de la pluie, c'était pas le Dieu de la terre, c'était pas le Dieu du soleil. Est-ce qu'il est en train d'honorer ça simplement, ou est-ce qu'il y a une exclamation d'adoration vraiment de sa part? C'est pas, je pense pas qu'on peut trancher ça. Oui, c'est ça. Oui. Mais ça, je questionne pas ça, David, dans le sens que je ne questionne pas du tout le fait que Dieu peut avoir placé de l'adoration dans le cœur de Cyrus. D'accord? J'ai aucun questionnement. Est-ce que c'est ça qui se passe? Je ne sais pas. Tu veux faire un commentaire, Stéphane? Oui, il systématiquement, là, historiquement, ce qui est documenté, c'est qu'il va honorer leur religion partout. D'accord? D'ailleurs, dans l'histoire d'Esdras et Néhémie, vous voyez aucun comportement de la part de l'Empire pour devenir des adorateurs de l'Éternel. Là. OK? Si tu lis bien Esdras et Néhémie, ce que tu vois, c'est que votre Dieu vous bénisse. En gros, c'est ça. Et là, on a un édit où il dit plus que ça parce qu'il dit « Ce Dieu-là, c'est le Dieu des cieux ». Fait que nous, on a fait notre lecture à nous comme croyants. Je ne sais pas ce qu'il disait. Non, peut-être qu'il disait, ton Dieu à toi, c'est le Dieu de la pluie. Hein? Ben, il était bien gentil, mais mes pouces vont très bien de ce temps-ci. Mais le Dieu d'Israël, c'était le Dieu des cieux. Et c'est pour ça que je vous dis que est-ce qu'il est en train simplement d'honorer la théologie d'Israël? Je ne sais pas. Je sais que Dieu est souverain là-dessus. Fait que j'ai pas de problème avec ce qu'il fait avec un roi. Il incline le cœur du roi comme il veut. On avance? C'est bon? Méditez là-dessus. Au moins, j'ai suscité une question intéressante sur le livre d'Esdras et Néhémie. Vous allez pouvoir jongler avec ça un petit bout. Voilà. Bien, on a lu les trois premiers versets, puis on est parti là-dessus. Alors, ce qui va se passer, lorsqu'on parle du livre d'Esdras, Esdras va arriver pas mal plus tard, en réalité. Je cherche un peu mes époques, là, je m'excuse. que je voudrais pas vous induire en erreur. Si vous regardez au début le retour sous Esdras, le second retour d'exil se déroula aux alentours de 457 avant Jésus-Christ, soit près de 60 ans après l'achèvement de la construction du temple. Le second retour. À cette époque, Esdras était souverain sacrificateur et scribe. Alors, le retour de l'exil se produit, ils s'en vont là-bas, ils vont commencer des travaux de reconstruction, ils vont être obligés de prendre une pause à cause des ennemis locaux de 20 ans dans la construction du temple. Ils vont faire une demande pour pouvoir compléter cette reconstruction-là. Le nouveau roi va vérifier les anciens édits, il va voir que la permission avait été donnée et il va envoyer une nouvelle communication pour dire, allez-y, complétez cela. Le temple va être complété et ceux qui avaient souvenir, parce que certains d'entre eux avaient été là au niveau de la déportation de Juda, ceux qui avaient souvenir sont devant le nouveau temple et ils disent, oh boy, c'est pas le temple de Salomon, cette affaire-là. Et donc, eux vivent de la tristesse, d'accord? Parce que c'est pas aussi grand, c'est pas aussi majestueux. Le temple sous Salomon s'est construit au summum de la richesse d'Israël, d'accord? Et donc, le nouveau temple est moins majestueux, il est moins glorieux. Mais pour les personnes qui étaient là et qui, eux, vivent cette joie-là nouvelle de voir le temple de l'Éternel reconstruit, eux vont vivre vraiment un moment d'exaltation qui ressemble aux réjouissances que David avait lorsqu'il est entré avec l'arche, tout ça. Il a vraiment vécu beaucoup de joie à ce moment-là. Lorsqu'Esdras va venir, Esdras va s'appliquer davantage à des réformes morales, d'accord? Esdras était un scribe, donc c'était un homme de la parole. Esdras 7, 25, 27. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. On est avec un nouveau roi à cette époque-là. Lorsqu'Esdras va venir, ce qui lui est commandé, c'est de poursuivre, dans le fond, ce qui avait été dicté dans le premier édit. D'accord? Tu vas aller maintenant et tu vas rétablir les lois de ton Dieu et tu vas établir des juges et des magistrats afin que vous honoriez votre Dieu dans votre pays. D'accord? Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort. Alors, il y a donc une superposition à ce moment-là de deux lois, les lois de l'Empire et les lois locales avec l'Éternel. À la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel. Alors, c'est le narrateur qui reprend le micro ici et il dit, voici, Dieu souverain, Dieu a permis que notre Dieu soit honoré à travers tout cela. Réforme d'Esdras, à son arrivée, Esdras réalisa que le peuple était corrompu, car des hommes avaient pris des femmes étrangères, des filles étrangères pour femmes, et donc il s'enlignait pour refaire exactement ce que Salomon avait fait, ce qui avait toujours été une pierre d'achoppement. L'idée de ne pas aller vers des femmes étrangères, c'est qu'on parle d'aller prendre une épouse qui ne s'est pas convertie à l'Éternel. D'accord? Et par exemple, lorsqu'on était dans l'histoire de Ruth, bien Boaz ne fait pas une faute lorsqu'il fait ça. D'accord? Parce qu'elle s'est convertie à l'Éternel. Ces femmes-là ne s'étaient pas converties, et donc en allant prendre ces femmes-là comme épouses, il est en train d'inviter, d'une certaine manière, leur culte à venir. Et c'est ça qui va se passer avec le temps à tout coup. D'accord? Donc, lorsqu'Esdras vient, Esdras découvre ça, et puis il va intervenir, puis il va dire, non, vous allez retourner ces femmes-là vers leur père. Vous allez les retourner. Vous allez vous séparer d'elles. D'accord? Retour de Néhémie. Néhémie va revenir. Bon, probablement là, que pour ceux qui étaient avec nous lorsqu'on a fait la série, c'est plus frais à votre mémoire, là. Mais on parle d'un homme qui avait à cœur Jérusalem et qui, lorsqu'il a entendu l'histoire de l'État de Jérusalem qui était sans protection, le temple a été reconstruit, mais la ville elle-même est dans la désolation. Il n'y a pas de mur pour protéger la ville. Elle est exposée constamment aux pillards. Le cœur de Néhémie va être bouleversé et il va simplement exprimer une prière à Dieu pour dire « Seigneur, moi je suis prêt à y aller. Je suis prêt à aller diriger la reconstruction des murs. » Dispose encore une fois le cœur du roi. Pardon. Et comme Flore le disait, c'est vraiment proche de notre expérience à nous. je vois des circonstances, je lis la parole de Dieu, il y a des choses qui viennent, des fardeaux qui viennent sur mon cœur, des rêves qui viennent sur mon cœur, conformément à la parole de Dieu, inspiré par la pensée de Dieu, et je prends ça, puis je m'en vais dans la prière avec ça, puis je dis, Éternel, mets ta main souveraine là-dessus. Dispose, ouvre les portes. Vous savez, nous autres, on va utiliser un langage comme ça, ouvre les portes, ferme des portes, aplanis le sentier devant moi. Dispose les choses pour que ce que j'ai sur mon cœur puisse s'accomplir, Éternel. Et donc, Néhémie va être cet homme qui va se confier en Dieu et qui va oser aller de l'avant pour faire ces demandes-là. Quelques années plus tard, j'arrive dans la section justement le retour de Néhémie, soit environ 12 ans plus tard, en 445 avant Jésus-Christ, donc 12 ans après l'arrivée d'Esdras. Néhémie, qui vivait à Suse, reçut un rapport provenant de Jérusalem qui le bouleversa et le poussa à demander au roi Artaxerxès la possibilité de retourner à Jérusalem. Les murs de la ville étaient en ruine. À cette nouvelle, Néhémie tomba à genoux et pria. Il va dans la prière puis dit, « Seigneur, si tu permets, si tu ouvres les portes, moi je suis prêt à y aller. » Et je vais aller diriger cette reconstruction-là. Il demande la possibilité de le faire. Dieu dispose le cœur du roi. Néhémie est libéré pour se rendre. Il est libéré de ses charges pour se rendre à Jérusalem. Il reste au service du roi, fait qu'il va faire des voyages. Néhémie ne va pas toujours être à Jérusalem, mais il demeure au service du roi. C'était pratiquement un ministre pour ce roi-là. Et donc, il va faire des voyages. Néhémie 2, 17 à 20, je m'excuse. Lorsqu'il arrive là-bas, il fait le tour de la ville et il constate l'état des lieux. Il dit, « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été avec moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. » Et donc, Néhémie va être ce chef qui est, c'est vraiment un beau modèle de leadership. Tout le monde, plein de d'écrivains se sont inspirés de Néhémie pour apprendre des principes de leadership parce que c'est un homme humble, c'est un homme qui, ce qu'il a à cœur avant tout, c'est la gloire de Dieu. Il a quitté un statut, une qualité de vie, un standing qui était très, très, très confortable, mais porté par le fardeau, le désir de voir la gloire de Dieu se manifester, il va quitter tout ça et puis il va même mettre sa situation, son emploi en péril. C'est parce que le roi aurait pu s'irriter, aurait pu décider de voir une trahison là-dedans. Et il va partir pour pouvoir aller reconstruire. Et là-bas, il va agir avec beaucoup de sagesse, beaucoup de stratégie, beaucoup de finesse pour gérer, parce qu'il y a encore des adversaires. Si les murs sont en ruine, il y a encore des petits rois autour qui ont un impact sur Jérusalem et qui ont la possibilité de venir envahir, piller à tout moment. Et donc, il va devoir négocier à travers ces eaux-là pour pouvoir convaincre le peuple de dire, on est capable, les boys, on peut le faire, on peut reconstruire ces murs-là. Regardez, Dieu est avec nous, puis gérer les moments où les peuples autour veulent s'opposer. Le livre de Néhémie, le livre d'Esdras et Néhémie, va se terminer sur cette superbe réforme spirituelle et morale où la loi de Dieu va être lue. Et ce qui est touchant dans à ce moment-là, c'est qu'on découvre un peuple qui ne connaît plus la loi de Dieu. D'accord? Et on voit l'impact de la parole de Dieu. Parce que le peuple ne connaissait pas la loi de Dieu. Comme j'ai dit, il y a 1000 ans qui s'est passé. C'est un peuple qui a été déporté. Le peuple n'est pas organisé encore avec des synagogues où on enseigne la loi de Dieu. On va voir un peu plus tard dans la période, il y a une période de silence, on l'appelle la période de 400 ans de silence entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, d'accord? Et il y a des Juifs à Jérusalem, il y a des Juifs qui sont revenus, mais il y a beaucoup de Juifs qui, à travers les diverses déportations, sont un peu partout dans l'Empire romain, par exemple, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament. Et dans cette période-là de 400 ans, les Juifs en déportation qui veulent être fidèles à l'Éternel vont s'organiser et ils vont commencer à constituer des synagogues qui vont devenir des écoles ou des lieux de prière et d'études de la Bible un peu partout dans plein de villes, d'accord? Ça va se développer pendant ces 400 ans-là. Au moment des deux premières déportations, là où on est rendu dans l'histoire, ça n'existe pas, ça. Quand les gens ont été en déportation, il n'y avait pas beaucoup de ressources pour connaître la parole de Dieu, là. Alors, ceux qui reviennent doivent redécouvrir la parole de Dieu. Et donc, le peuple va être assemblé Et ils ne connaissent tellement plus la parole que les Lévites doivent se promener au milieu du peuple et expliquer les textes qui sont lus. Parce que les gens ne comprennent plus là, de quoi on parle. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça implique, cette affaire-là? Les Lévites vont se promener au milieu d'eux. Et il y a un réveil spirituel extraordinaire qui se produit à ce moment-là. Parce que leurs cœurs sont touchés, sont bouleversés par la parole de Dieu. Oui, Suzy. Oui, c'est une très bonne question. La question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on va arriver à l'existence des synagogues? Qui va établir ça dans cette période-là, tout ça? J'essaierai de le couvrir quand on va arriver à la fin de l'Ancien Testament un petit peu pour expliquer comment ça se passe. Mais à partir du moment où Israël redevient une nation, il va y avoir des relations, ce qu'on appelle la diaspora. D'accord? Les frères et sœurs haïtiens sont bien habitués, connaissent bien cette expression-là. Il y a la diaspora haïtienne qui est un peu partout, parce que ce pays-là a tellement souffert qu'il y a des Haïtiens un peu partout dans différents pays. Et donc, il y a des relations entre Haïti et la diaspora haïtienne. Il y a des relations avec des villes particulières où tu as une forte communauté, tu as une forte densité de population haïtienne dans tel pays ou dans telle région, tout ça. Et il y a des relations qui s'installent. On en parlera peut-être un petit peu à ce moment-là, des relations qui vont être entre Israël, le territoire, les Juifs qui habitent là, et les gens un peu partout dans la diaspora. D'accord? Je vais m'arrêter ici. Tu avais une question, un commentaire? OK. OK. Alors, Stéphane nous dit que vous pourriez aller lire l'article sur Cyrus sur Wikipédia. Ça va vous aider peut-être à compléter un peu les données historiques là, que j'ai pas eu le temps de vous livrer, d'accord? On va se courber dans un mot de prière pour adorer le Dieu souverain, n'est-ce pas? Et puis, la semaine prochaine, on va couvrir ensemble Esther et Job. C'est des gros morceaux, hein? Je sais que c'est des gros morceaux. Je vous encourage à lire à la fin là, de la leçon. Là. Il y a quelqu'un qui m'a encouragé il y a une semaine qui m'a dit qu'elle prenait le temps justement d'aller lire les recommandations de lecture. Alors, je vous ai mis une dizaine de chapitres à lire dans Job pour pouvoir suivre la semaine prochaine si vous n'êtes pas en mesure de lire tout Job, là, qui est quand même assez long. Je vous encourage à aller lire les chapitres que vous avez à la fin pour pouvoir suivre la discussion sur Job. Surtout, si vous avez jamais lu Job, là, ça serait vraiment important, d'accord? Éternel notre Dieu, nous voulons t'adorer parce que tu es le Dieu des cieux. Tu es celui qui règne sur toutes choses, celui qui incline le cœur des rois comme on détourne le cours d'une rivière, Seigneur. Tu es celui qui est souverain sur l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, c'est ton histoire, c'est celle que toi tu écris, Seigneur. D'une manière mystérieuse, tu œuvres à travers nos histoires personnelles, nos histoires nationales, Seigneur. Tu demeures souverain sur ces histoires et bien que les hommes aient le sentiment d'être au gouvernail, Seigneur, de diriger leur vie et d'écrire eux-mêmes leur propre histoire, Seigneur, des millions, voire des milliards d'hommes ont réalisé à la fin de leur vie qu'ils avaient eu bien peu de contrôle sur l'écriture de cette histoire personnelle. Mais pareillement, Seigneur, nous savons que tu es souverain et que tu écris l'histoire de l'humanité. Nous voulons t'adorer ce matin, nous voulons reconnaître que c'est toi qui es le Dieu des cieux. Et Seigneur, si Cyrus avait un jeu politique quelconque dans ses déclarations, sache, ô notre Dieu, que c'est pour nous une déclaration de notre amour pour toi, de notre allégeance à celui qui règne sur les cieux et la terre. Nous t'aimons, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.